Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec qui vous invite à vous joindre à la fonction publique. Travailler pour le Québec, plus qu'une carrière.
Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, de retour à Sans détour après le congé de Pâques. Et oui, nous sommes le 8 avril, mais nous ne parlerons pas de l'éclipse. Ah, tiens, ben voilà, c'est fait, on en a parlé. Nous aurons le plaisir, on va parler de télé aujourd'hui. L'émission Vestiaire commence cette semaine à Ami Télé, une série qui va faire date, qui va faire époque. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Michel Cordet et Marie-Christine Ricignolo, comédien et comédienne dans une série qui va ouvrir des portes et aérer l'espace médiatique. Ça, on s'en reparle tout à l'heure. Mario Légaré, directeur général d'Adaptavi, nous parle d'un lancement d'un laboratoire vivant Adaptavi, un organisme de la région de Québec qui a un long historique d'innovation. Et on va en reparler avec lui. Élisane Pellerin fait la revue de presse à 12h45. Mais avant de commencer tout ça, encore les bonnes nouvelles scientifiques avec Philippe Ducharme. Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va très bien François, et toi?
Pour un scientifique comme toi, je suppose que tu as une après-midi d'éclipse là. Hein?
Une après-midi chargée, c'est clair que je ne manquerai pas ce rendez-vous-là. Très spécial que nous avons aujourd'hui là, au Québec.
Ça, oui, 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 tout à fait. Mais il ne faut pas regarder le soleil directement là, avec ses yeux, surtout si on a déjà des problèmes oculaires.
Absolument. C'est très important. Là, on le rappellera si jamais. Là, ne le regardez pas sans protection adéquate. Là,
Vous pouvez regarder l'éclipse à la télé. Hein?
Oui.
De temps en temps, jeter un coup d'œil dehors pour voir que. En ouvrant la fenêtre, là, pour sentir que le vent change ou qu'il y a
des autres phénomènes qui s'accompagnent.
Voilà, les oiseaux chantent ou ne chantent pas, ainsi de suite. Mais ne levez pas la tête, voilà.
Non, surtout pas.
C'est ça l'idée. On parle aujourd'hui encore des... À chaque fois, Philippe, vous nous apportez des bonnes nouvelles. En fait, peut-être pas pour demain matin, mais ça donne de l'espoir. Une découverte prometteuse pour lutter contre la grippe, parce que ça, la grippe, c'est universel.
Commençons par ça, effectivement. Donc, une infection qu'on connaît bien, une infection des voies respiratoires qui se transmet facilement, qui revient un peu à chaque année, hein, à l'automne, causée par un virus, on le connaît bien aussi, l'influenza, on l'entend souvent. Une personne qui est infectée par ce virus-là, ben, en règle générale, le système immunitaire, là, il va faire le travail qu'il faut. Il va, après une dizaine de jours, avoir produit les anticorps afin de neutraliser puis d'éliminer le virus. Puis, ben, la vie reprend. Cependant, hein, il arrive des situations, on le sait, là, où il y a des complications qui peuvent se produire. Ça peut nécessiter même des hospitalisations, évidemment. Là.
Tout à fait. Parfois, il y a des complications neurologiques à long terme aussi, reliées à ces types de maladies.
Tout à fait. Là. Ça peut entraîner bien des choses. Et on ne le dira jamais assez, hein, la meilleure façon de se protéger, ben, ça demeure à ce jour la vaccination. C'est le moyen le plus efficace pour éviter les complications qui découlent du virus de la grippe.
D'accord. Et à l'UQAM, les professeurs Denis Archambault et Steve Bourgault commencent à travailler à plancher sur un nano-vaccin.
Tout à fait, exactement. Donc, un vaccin à base de nanoparticules. Petite pause là-dessus. Nanoparticules, ce qu'on peut dire de ça, c'est que ce sont des particules d'environ 100 nanomètres. Pour vous donner une idée, là, ça peut être, on est dans l'ordre du millième, donc le mille fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu.
Oh, d'accord, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Là,
ça ne se voit pas du tout à l'œil nu.
Même avec une grosse loupe.
Ah oui, ah oui, même avec ça. Évidemment, donc, c'est un vaccin qui a été développé par cette équipe de chercheurs selon les résultats, procure une immunité spécifique robuste et ça peut même procurer une protection totale contre le virus de l'influenza de type A.
Mais qu'est-ce qui fait que ce vaccin-là est plus efficace que les autres? Parce qu'il y a quand même des campagnes de vaccination contre la grippe chaque année.
Oui, tout à fait. Ben, évidemment, c'est basé sur cette technologie-là qu'ils utilisent ici. Là. Bon, je vais faire un petit retour en 2023 pour vous dire que d'abord, ils ont testé ce virus-là, ce vaccin-là, chez des souris par voie intramusculaire. Puis là, ben, ils ont vu que c'était un vaccin qui fonctionnait très bien, avec une réponse immunitaire. Et là, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'ils ont administré ce vaccin-là au niveau intranasal, donc dans le nez.
D'accord, okay? Avec comme des fois, comme des petites pompes là, où on s'envoie un jet de vapeur dans le nez pour se décongestionner. Là.
Voilà, exactement. Ce qui est fort intéressant, c'est que oui, ça produit une réponse immunitaire dans l'ensemble de l'organisme, on a une réponse systémique, mais ça produit aussi une réponse immunitaire au niveau local, au niveau des tissus du nez et des poumons.
Qui seraient les premiers tissus attaqués en cas de, évidemment de contagion, on peut croire ça. Mais c'est bien parce que les vaccins pour les gens qui n'aiment pas les aiguilles, hein, ben, voilà.
On a peut-être quelque chose qui va plaire aux gens justement qui ont un peu plus de réticence avec les vaccins traditionnels. Donc, c'est un vaccin qui est très efficace pour neutraliser le virus à l'endroit même où il pénètre dans l'organisme, souvent par les voies nasales, par exemple. Et ça contribue, ce qui est intéressant de ce type de vaccin-là, c'est qu'on va donc permettre de lutter contre la transmission entre les individus, qu'un vaccin actuel ne fait pas nécessairement.
Parce que si on éternue, puis on fait des aérosols, hein, avec la COVID, on a appris tout ce langage-là. Nos aérosols vont avoir des nanoparticules. Alors, ça fait déjà
On agit très rapidement. Là. Dès l'entrée du virus par les voies nasales, tout de suite, on a le mécanisme de défense qui est en place. C'est surtout ça qui est intéressant, parce que ça va peut-être empêcher ou diminuer les probabilités de transmettre le virus à une autre personne. L'autre élément très intéressant de ce vaccin-là, c'est qu'il ne nécessite pas dans sa composition l'ajout d'un adjuvant. On entend des fois un peu ça dans la média, mais l'adjuvant, c'est un produit qui va amplifier la réponse immunitaire du vaccin. Donc ça, c'est un autre élément intéressant. Là, on n'a pas besoin d'ajouter ça comme ingrédient dans ce type de vaccin-là.
On a hâte de voir ce vaccin-là disponible au grand public, là, parce que la grippe, c'est tout le monde, hein? On tourne la page. Perte de vision provoquée par des bactéries intestinales. Alors, il y a des bactéries qui quittent la faune bactérienne du système digestif, là, qu'on sait est un univers en soi. Ces bactéries-là sont capables de migrer du système digestif et vont s'attaquer à l'œil.
Et voilà, exactement. Toute l'hypothèse tient là-dessus, c'est-à-dire, prenons au départ, c'est une découverte qui va concerner qui? Ben, ça va concerner des gens qui sont atteints par certaines maladies oculaires, comme par exemple la rétinite pigmentaire ou encore l'amaurose.
Oui, congénitale de Leber. Ben, on connaît beaucoup de gens qui font de la rétinite, dont votre humble serviteur.
Ben oui.
Et beaucoup de gens qui ont la morose congénitale de Leber. Beaucoup de gens dans ces communautés.
Ce qui est commun dans ces deux cas-là, c'est que les gens sont souvent porteurs d'une mutation au niveau d'un gène, le gène qu'on nomme Crohn's homologue 1. On peut l'appeler aussi CRB1 si on préfère.
D'accord.
Et donc, ce qu'il y a de particulier, c'est que ce gène-là, à la base, il faut se dire, ça a une fonction. C'est-à-dire que c'est un gène qui code pour une protéine. Cette protéine-là va participer, alors elle va avoir un rôle au niveau de l'étanchéité, au niveau de la paroi intestinale. C'est-à-dire que les cellules qui composent la paroi de l'intestin, ben, elles se collent l'une contre l'autre.
Exact.
Et cette protéine-là, avec un ensemble d'autres protéines, là, ben, elle s'assure de rendre ça très étanche, pour faire en sorte qu'il n'y ait rien qui passe.
Il ne faut pas que les microbiotes commencent à se promener partout.
Surtout ça.
Voilà, parce que c'est des bactéries qui sont utiles dans un milieu bien défini. Avec cette mutation-là, tout d'un coup, notre paroi intestinale devient un peu poreuse, les bactéries se promènent crac, boum, elles se retrouvent dans l'œil.
Et voilà, exactement. Les bactéries quittent l'intestin pour se retrouver dans la circulation sanguine. Elles sont en cavale et à un moment donné, arrivent à l'œil et il faut le dire, le gène CRB1, on en retrouve aussi au niveau de la rétine. Il y a de cette protéine-là qui est importante pour l'étanchéité entre les cellules au niveau de la rétine. Donc, ce qui arrive, c'est que les bactéries se faufilent entre les cellules au niveau de la rétine et pof, elles se retrouvent là et créent probablement aussi une inflammation que les gens observent là, chez ces personnes-là.
C'est
une grande hypothèse, mais les résultats tendent vers cette démonstration-là que c'est un gène impliqué dans cette cavale-là des bactéries de l'intestin vers l'œil.
Mais ils ont trouvé dans des yeux endommagés, si je peux dire, par des maladies génétiques, des bactéries qui normalement auraient dû être dans l'intestin.
Tout à fait, c'est ça. Ça n'a pas d'affaire à être là.
Exact. Alors, on parle de la mutation génétique Crohn's homologue 1. Mais c'est quand même 4 % des cas de rétinite et 10 % ça c'est pas mal, des amauroses de Leber. Alors, c'est quand même une partie importante de notre population handicapée visuelle.
Ça pourrait avoir des répercussions intéressantes au niveau de traitement éventuellement.
Oui, ça peut être une piste. On va encore parler des micro-robots. Hein? Ouais. c'est comme tout un domaine maintenant. Il n'y a pas un mois sans qu'on parle de micro-robots.
Non, c'est pas d'être ça. C'est fascinant, moi, je trouve, de voir à quel point on est rendu là. On est rendu avec des robots qui se promènent dans le corps. Donc, on est dans un contexte ici de cancer du foie. D'accord. Donc, il y a quand même pas mal de gens au Canada là, qui souffrent d'un cancer du foie qui ont été diagnostiqués en 2023. On parle de près de 4700 personnes.
Oui, et c'est un cancer qui est assez... c'est pas le plus simple à traiter là. Le cancer du foie souvent c'est un pronostic là qui est tragique.
Exactement, ouais, c'est vrai. Puis il y a des traitements qui existent, mais bon, ces traitements-là, c'est de la chimiothérapie, c'est quand même ça. Puis ça, dans certains cas, ça demande aussi quand même du personnel très qualifié pour administrer un traitement comme celui-là. Et donc, dans ce contexte-là, bien, il y a des gens qui travaillent sur d'autres avenues, notamment des chercheurs québécois, c'est la nouvelle que je veux vous présenter. Donc, une recherche qui a été dirigée par le radiologiste Gilles Soulez, qui est associé à l'Université de Montréal, un étudiant dans son laboratoire. Le postdoctorant NIG-LI. Une étude qui a été réalisée en collaboration avec d'autres chercheurs là, à Polytechnique et à l'Université de la Colombie-Britannique. Et en gros, ce qu'ils ont fait, là, on y arrive, là, des micro-robots qui sont fabriqués à partir de particules d'oxyde de fer. Donc, le fer, c'est un métal qui est aimantable.
Hein, et c'est là le truc, c'est que ce soit de l'oxyde de fer.
Oui, exactement. Avec ça, on fabrique des trains de micro-robots. Donc, on assemble comme des wagons de train, on assemble des trains de micro-robots. L'avantage de ça, c'est qu'on peut, chaque petit wagon transporte une petite quantité du médicament. Donc, on peut gérer la quantité totale en ajoutant.
En allongeant le train.
Ouais, voilà, tout à fait. Une fois qu'on l'a, ben, on va l'injecter. On l'injecte à l'aide d'un appareil, c'est-à-dire on le fait sous imagerie par résonance magnétique. Un appareil qui génère un champ magnétique parce que ça prend du champ magnétique pour pouvoir...
Alors c'est comme ça, c'est comme le truc avec un gros aimant, on ramasse la limaille de fer qui traîne sur la table. Là, on voyait ça dans les cours de physique là, à l'école. On dirige les micro-robots vers la zone cancéreuse.
Exactement, la zone souhaitée au niveau du foie. On les dirige par le champ magnétique produit par l'appareil. L'appareil aussi permet de mieux visualiser la tumeur comparativement aux méthodes qu'on utilise, qui utilisent par exemple les rayons X.
Oui,
on a une meilleure vision de ce qui se passe et où les trains s'en vont et à quel endroit on les dirige aussi. À combiner à ça, ils ont développé un algorithme qui permet de bien déterminer dans quelle position le corps devra se retrouver, le corps du patient dans l'appareil, afin de bien tirer avantage de la force magnétique et de la force gravitationnelle.
Et de la gravité. OK, le foie est surtout à droite. Alors, je suppose qu'on se couche sur le côté droit pour que le micro-train descende vers le foie.
On peut imaginer ça. Là, ça a un rôle important. Ça a été testé jusqu'à ce jour sur des porcs, ce qui a permis de valider que c'est un bon moyen, là, que les trains vont aller exactement à l'endroit qu'on souhaite qu'ils aillent. Donc, c'est déjà une belle avancée. Il restera évidemment à amener ça au niveau clinique, mais c'est-à-dire tester ça chez l'humain éventuellement, ce qui n'est pas encore fait pour l'instant.
D'accord.
La prochaine étape, on arrive à des résultats semblables chez les humains.
Maladie de l'œil, grippe, Et cancer du foie. Hein,
C'était la mouture d'aujourd'hui.
Ben oui, il y a toutes sortes d'avancées qui. C'est très prometteur, franchement. Là, c'est, on est rendu habitué maintenant, hein, grâce à vous, oui. Philippe, de parler des micro-robots, des nano-vaccins, et ainsi de suite. Là, alors, on va reparler d'un autre truc ou deux dans quelques semaines. Merci beaucoup.
Bien sûr.
Merci.
Bien sûr. Ça fait plaisir. Bye-bye.
Ah, Vince Guaraldi, on l'écouterait toute l'après-midi, mais on a des choses bien plus sensationnelles dont nous souhaitons discuter avec nos amis aujourd'hui, nos deux comédiens, comédiennes, Michel Cordet. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Et bonjour. Marie-Christine Ricciniolo. Bonjour, Marie-Christine.
Salut, François.
Vous êtes des comédiens, comédiennes qui ont été projetés à l'avant-scène, si je peux dire, au cours des derniers jours dans les médias. Suite à la présentation de la série télévisée Vestiaire, qui va être diffusée à partir de mercredi de cette semaine à 20h sur Ami Télé. Vous étiez, je pense, en tout cas, Michel, tout au moins, à Tout le monde en parle hier, là, une émission qui fait 2 millions de codes d'écoute. Ça va changer la perspective, mais d'abord, qu'est-ce que Vestiaire?
Vestiaire, en fait, c'est une sitcom, une comédie de situation qui raconte l'histoire d'un groupe de nageurs qui ont la particularité que chaque personne est en situation de handicap. Donc, c'est des gens qui se retrouvent à chaque semaine dans le vestiaire d'une piscine, puis on assiste à leurs anecdotes et leurs aventures humoristiques dans leur petit quotidien d'apprentis sportif.
Voilà. Donc, c'est un club de nageurs, comme il y en existe d'autres. Mais la différence, c'est que chacune vit avec un handicap et ce n'est pas tous les mêmes handicaps. Certains sont visibles, d'autres sont invisibles. Marie-Christine, comment ça s'est passé sur le plateau pour créé cette émission-là, parce qu'il a fallu composer avec les limitations de chacun, puis en même temps se mettre à l'aise?
Oui, bien, pour ma part, moi, j'ai été vraiment bien encadrée, bien accueillie dans toute cette aventure-là. Là. J'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai l'impression que l'équipe au complet de production avait un souci de rendre l'expérience agréable pour chacun d'entre nous, selon justement nos limites, nos capacités. Puis donc pour ma part, moi, ben en fait, je faisais des repérages avant chacune de mes scènes. J'ai eu du soutien d'un coach pour l'apprentissage de mes textes, parce que comme je suis non-voyante, c'était difficile d'apprendre mes textes, mais surtout de les interpréter digne d'une comédienne.
Oui, ben, pour avoir vu les trois premiers épisodes, j'ai eu ce oui. plaisir exclusif, ou presque. Je peux dire que vous êtes tous des comédiens et comédiennes maintenant. Là. Ça sonne très juste. C'est pas du cégep, là, ici. Là. Sans manque de respect pour les gens au cégep qui font du théâtre, là. Mais vous sonnez juste. Là.
On a travaillé très fort pour ça. Ça a été tout un travail d'équipe. Je pense qu'on s'est beaucoup poussé et entraidé les uns les autres. On avait tous des expériences, des bagages d'expérience qui étaient très différents. Mais je pense qu'on avait une motivation très très grande à ce que justement ça sonne juste, à ce que la série aille le meilleur rendu possible.
Parce que
oui, puis aussi, oui, si vas-y. Je peux ajouter, je trouve que notre réalisateur Louis Choquette puis Martin Tremblay, qui était notre coach de jeu, avait une patience, puis ils étaient, tu sais, on a travaillé dans un rythme lent, je crois, plus lent qu'à l'habitude, comme des comédiens de haut niveau ont l'habitude de travailler. Puis ça, je pense que ça fait une grande différence, justement, pour pouvoir recevoir le commentaire que vient nous adresser. François, je pense que ça fait toute la différence.
Parce que ce qui arrive, enfin, mon impression en faisant le visionnement des trois premiers épisodes, c'est que assez rapidement, le fait que des personnes aient des handicaps visibles ou invisibles, ça devient tout à fait, ça n'a aucune importance. Ce qu'on écoute, c'est les textes qui sont drôles, c'est les situations. On apprend à connaître un peu la personnalité de chacun, parce qu'on finit par savoir un petit peu la petite histoire de tout le monde. Et c'est, vous devenez attachant pour qui vous êtes. Et bien que l'humour soit relié parfois au fait qu'il y a des handicaps, ça, c'est comme... Vous seriez tous en train de travailler dans un garage, puis ce serait des farces d'automobiles que ce serait pareil.
Oui, ben c'était un peu ça le but, je pense. C'est-à-dire que après quelques scènes, en fait, on se rend compte que finalement, c'est des gens comme tout le monde qu'on côtoie. Puis c'est une espèce de petite micro-société, c'est une petite gang d'amis. Puis on se retrouve, je pense que le spectateur se retrouve à faire partie de la gang, justement, puis à assister à toutes ces belles petites histoires-là qui se déroulent sous leurs yeux.
Ce qui frappe aussi, c'est... moi, je suis handicapé visuel, alors les gags au sujet des gens qui n'ont pas d'handicap, moi, ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'ils sont très justes. Mais je ne sais pas si les gens qui n'ont pas de... ne côtoient pas dans leur quotidien des personnes en situation d'handicap vont trouver l'humour... peut-être ça va les décoiffer un peu, parce que on se dit entre nous parfois des choses qui peuvent paraître osées.
Ben c'est sûr que ça, j'ai l'impression que ça laissera pas le public indifférent, parce qu'en effet des fois il y a des gags qui sont très inhabituels. C'est la première fois que je crois que le public va entendre des choses justement à propos des personnes handicapées, donc ça risque de secouer un peu les gens, mais d'une manière très positive, parce que tout est dans l'autodérision, tout est dans la comédie, dans l'amitié aussi, surtout, on ressent vraiment cette intention-là qui est bonne et non mesquine. Là. Tout est fait vraiment à 100%, tout est adressé avec amitié, puis ça, je pense qu'on le ressent aussi beaucoup.
Oui, ça, c'est très juste ce que vous dites là, parce que c'est l'impression aussi que j'ai eue. Il n'y a pas de méchanceté entre les personnages. Il y a beaucoup de taquinerie, là, mais il n'y a pas de méchanceté.
Et... Non, comment on dit ça? On dit qui aime bien, châtie bien. Donc,
qui aime bien, niaise bien. Oui.
Ben, donc, on s'aime beaucoup, c'est ça qu'on peut dire.
Ben oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, le Michel Charette, qui joue le rôle du coach, qui, lui, n'a pas d'handicap, semble-t-il, lui, en fait, a l'air plutôt de celui qui est un petit peu, je dirais, rusé ou loser, là, selon le point de vue.
On pourrait dire ça. Mais je pense que le personnage de Michel aussi sert beaucoup à amener des questions ou des situations qu'on vit dans notre quotidien puis qu'on peut expliquer peut-être. Je pense qu'il ramène beaucoup la perspective de certains préjugés qu'on peut entendre. Puis nous, ben, ça devient un bon prétexte pour les désamorcer au travers de son personnage puis au travers des situations humoristiques. Mais en plus de ça, Michel, c'est un comédien physique absolument extraordinaire. Là, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Puis lui, je pense qu'il s'est beaucoup amusé avec nous aussi. Donc c'est vraiment un personnage qui est trippant parce qu'il nous permet justement d'amener certains points et de corriger certains préjugés, oui.
Exact. Il y a Dominique Sillon aussi qui est au texte et qui lui-même vit avec un handicap. Là, et il n'a qu'un œil. Et parfois, son personnage est un peu celui de la personne en situation de handicap qui n'est pas encore tout à fait rendu au point d'identification. Enfin, c'est l'impression que j'avais en l'écoutant. Là. Il avait l'air de celui qui pouvait passer d'une chaise à l'autre. Là.
Ah, OK, comme qui n'est pas certain dans le sens.
Ben, en fait, le personnage de Dominique, c'est un peu particulier parce que c'est le seul personnage qui a un handicap qui n'a pas vraiment d'impact sur ses qualités de nageur.
Exact.
Donc finalement, on se rend compte assez vite qu'il n'est juste pas un très bon nageur. Le moyen qu'il a trouvé de d'être compétitif, c'est d'aller nager avec des personnes handicapées. Donc on s'amuse avec lui. On aime bien le lui remettre en pleine face de temps en temps. Donc, oui, on pourrait dire ça, que c'est un personnage qui va devoir apprendre à s'assumer au fur et à mesure que la série va avancer.
Exact. Parce qu'on a hâte de voir comment ça se développe. Christine, vous jouez le rôle d'une jeune femme qui cherche l'amour. Hein? On va dire ça comme ça.
Oui.
Puis alors, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on découvre au fur et à mesure des épisodes un petit peu la personnalité. C'est pas, ça va un petit peu plus loin que simplement le gag de situation. Puis c'est ça qui vous rend, si je peux dire, attachant. Voilà. Ben, on va écouter tout ça à Ami Télé. Il y a une très bonne vidéo description pour ceux qui et celles qui ont peut-être un peu de difficulté avec les écrans. Pour en avoir fait l'essai, je peux vous le dire. Et ça commence à Ami Télé ce mercredi, 20h.
Absolument. Ben, merci beaucoup. Hein.
Merci.
Les gars.
Chapeau.
Merci.
Avec François Beauregard.
Rebonjour. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Mario Légaré, qui est le directeur général d'AdaptaVie. Bonjour Mario, comment allez-vous?
Oui, bonjour François, ça va bien?
Ça va super, merci. AdaptaVie a été fondée il y a 40-quelques années, en 1980. C'est un organisme qui accueille plus de 2000 personnes chaque année pour ses programmes et ses services. Si vous êtes de la région de la capitale, dans la région de Québec, vous connaissez AdaptaVie. C'est vraiment un incontournable. Et AdaptaVie vient de lancer quelque chose qui a suscité ma curiosité. C'est le lancement du laboratoire vivant AdaptaVie. De quoi s'agit-il?
Merci de me donner l'occasion ce midi, François, de parler d'un beau projet, d'un nouveau projet pour AdaptaVie. Comme vous le dites, depuis 44 ans qu'on existe, mais un peu plus que ça même, parce que l'idée d'AdaptaVie est partie au milieu des années 70 par les intervenants de ce qu'on appelait anciennement le Centre François-Laurent, l'IRDPQ.
Oui, c'est vrai.
Qui est maintenant intégré au Grand CIUSSS de la capitale nationale. Donc, les premières activités ont eu lieu en 76. En 80, on est devenu une corporation en bonne et due, comme beaucoup d'autres organismes au Québec. Et...
Hop là. Ah, de retour après cette éclipse, Mario.
Ben oui, Nick.
Je ne sais pas si...
Désolé.
Il n'y a aucun souci. Le... Voyons donc. On reprend la balle. On prend la balle au bon. On parlait, avant que la ligne ne se détériore tout à fait, du lancement du laboratoire Vivant Adaptavie.
Oui.
Je mentionnais qu'Adaptavie avait une longue histoire et avait été incorporée. Tu donnais la date en 1980, mais ça datait de... plus longtemps que ça en arrière. Et Adaptavie, maintenant, parle...
De... Oui, c'est ça.
Oui.
Du laboratoire. Ben, c'est ça. Je vais reprendre, mais je vais faire plus court. En fait, on cherchait une façon avec les chercheurs là, de dynamiser nos collaborations. Et
d'accord.
Souvent, les chercheurs venaient nous voir pour participer. Donc, on pensait qu'on pouvait faire mieux, en fin de compte, parce que de recherche qui nous était présentée, c'était souvent des données qui avaient été identifiées par les chercheurs et non par les usagers eux-mêmes ou par nous comme organisation.
Exact. Parce que c'est les gens qui vivent la situation qui sont les mieux placés pour donner une rétroaction sur les adaptations, sur comment les choses doivent être pour que leur intégration se fasse bien.
Absolument. Donc, l'idée, c'est d'améliorer les activités de la vie quotidienne pour que monsieur, madame ou l'enfant puisse participer à son sport, à son activité, aller à l'école, aller au guichet, aller à l'épicerie. Donc, on a inversé un peu la lunette et on a dit, ben partons du problème. Et c'est là qu'on a travaillé de façon différente et l'idée du laboratoire vivant est arrivée comme ça. Donc, le laboratoire vivant, ça regroupe qui? Ça regroupe, comme vous l'aviez bien dit, les usagers, nous comme organismes communautaires, puis il y a d'autres organismes communautaires qui se sont joints à nous, bien sûr les chercheurs, mais aussi les cliniciens, les cliniciennes du CIUS qui font partie de tout ça. Fait qu'en travaillant tout le monde ensemble, puis en créant ces projets-là, bien, ça arrive que gagnant à la fin, l'usager est gagnant parce que c'est ciblé sur ses besoins. Nous, comme organisme, ben, on n'implante pas quelque chose qui va rester sur une tablette.
Exact.
Le chercheur, ben, lui, il est content de voir que ses travaux servent à quelqu'un, une utilité
une application immédiate.
Voilà.
Alors, on sort de la théorie, puis en même temps, ça permet aussi de faire de modifier un peu le modèle, savoir si cette adaptation-là ou cette expérience de vie peut être encore, je dirais, mieux adapté, mieux vécu par l'individu qui est en situation de handicap. Alors, tout ça ensemble, ben, comment vous fonctionnez? Est-ce qu'il y a des caméras cachées? Est-ce que ça ressemble un peu à Big Brother, là?
Non. Nous, on a des installations qui, maintenant, depuis la pandémie, on est dans un centre commercial. Donc,
d'accord.
Les activités d'Adaptavie, on a nos propres locaux maintenant, à l'extérieur du centre de réadaptation et on a tout simplement demandé aux propriétaires du centre commercial de nous louer ça y faisait grand plaisir d'ailleurs, de nous louer un local de plus et attenant à nos activités, ben ce nouveau local est là et on a percé la porte bien sûr entre les deux, fait qu'en fin de compte, les activités d'Adaptavie sont dans la recherche est dans les activités. Donc, à la fois là-dedans, j'ai mes usagers, bien sûr, j'ai mon personnel, mais aussi on a les chercheurs et les étudiants de recherche qui sont sur place. Donc, quand quelqu'un a une idée, ben il peut la soumettre tout de suite. Puis à ce moment-là, ben, soit le chercheur ou l'étudiant de recherche peut se mettre à travailler immédiatement. Puis si le chercheur ou l'étudiant a une question, ben c'est pas long, les gens sont de l'autre côté. Donc, de cette façon-là, c'est super simple, super facile, puis tout le monde y trouve son compte de façon rapide et efficace. Et
mais de faire ça comme ça, ça a dû déjà commencer à faire des petits. À quel moment vous avez commencé à travailler de cette manière-là? Ça a été lancé officiellement il y a quelques semaines, mais ça fait combien de temps que ça roule?
Ben ça, le projet était accepté au financement en avril dernier, il y a un an. Donc, nous, tout l'automne, on a mis en place la mécanique. Au plan logistique, demander le local, ouvrir le local, rénover le local. Puis c'est pour ça qu'en février dernier, au lancement, le 22, on a invité tout notre monde. On était près d'une centaine partenaires, politiciens et autres. On a coupé le ruban. Mais on avait commencé certains projets. Pour l'instant, il y a 6 projets de recherche qui ont été identifiés puis qui ont été ciblés par le comité exécutif du Living Lab comme étant les 6 premiers projets qui sont lancés dans le projet. Mais il y en aura d'autres. Là, ce n'est que la première pierre de ce bel édifice qu'on met en place. Uh-huh. Et je peux vous les nommer.
C'était ma prochaine question. Oui,
tout à fait. Le premier projet, c'est qu'on veut qualifier la participation. Donc, vous le savez vous-même, vous êtes un joueur émérite de
hockey sonore. Oui, c'est beaucoup dire, mais enfin, oui. Oui,
je vous ai déjà vu à l'œuvre.
Oui.
Mais, somme toute, nous, ce qu'on veut être capable de faire, c'est de qualifier et de quantifier la qualité de la participation dans une activité physique adaptée ou inclusive. Donc, est-ce que l'activité, elle est bonne? Est-ce qu'elle s'adresse à la bonne personne? Comment la personne vit son expérience? Oui. Est-ce que c'est optimal? Est-ce que l'accueil est bon? Qu'est-ce que ça lui prendrait? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle est trop chère? Donc, toute cette qualité-là de participation, nous, on veut l'évaluer pour être capable de finalement de créer, d'identifier quelles sont les forces et les trucs à améliorer pour cette activité-là. Un autre projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est tout le développement et de formation pour l'utilisation adéquate de l'équipement en activité physique adaptée. Oui. C'est pas tout de fournir une luge, un vélo à un individu. Ben, faut qu'il sache s'en servir. Ça prend des gens autour qui sachent comment lui dire de se servir de cet équipement-là. Il y a une très grande mode, puis je la déplore pas. Mais les villes et le gouvernement ont donné des sommes importantes pour l'acquisition
d'équipement, tout à fait. Mais après ça, c'est comme vous présentez au comptoir, on vous donne la luge adaptée, puis bonne randonnée.
C'est ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir former ou à tout le moins accompagner les villes et les endroits, comme vous le dites, là, les kiosques et les animateurs ou les locataires, de dire... quand vous avez le type A, B, C d'équipement, voici de quelle façon il faut s'en servir, de quelle façon il faut accompagner la personne, de quelle façon il faut l'expliquer. Fait que ça, c'est un deuxième projet.
Oui.
Il y a un autre projet qui me tient particulièrement à cœur. Vous le savez, là, probablement qu'à Montréal, vous avez la même situation au niveau de tout ce qui est transport, mobilité et compagnie.
Oh, oui. c'est un dossier brûlant.
Oui, c'est ça. Donc, le transport adapté vit des heures difficiles, puis c'est pas un jugement que je porte, là. Mais nous, on a un projet sur lequel on veut stimuler la participation des personnes en situation de handicap au transport en commun régulier.
D'accord.
Si on est capable d'encourager une personne de plus à laisser le transport adapté pour le transport régulier, bien sûr, en enlevant certaines barrières. Puis l'idée, c'est d'avoir un système d'accompagnement par des pairs qui dit, regarde, moi, je le prends, c'est pas aussi complexe que ça a l'air, c'est pas pour tout le monde, mais pour une certaine catégorie de personnes.
Mais il y a possiblement, ou probablement, devrais-je dire, une partie de la population en situation de handicap qui pourrait être, pourrait utiliser le transport en commun régulier, ça déchargerait un peu le transport adapté.
Tout à fait. Et c'est ça. D'autres beaux projets, il y en a un qui est plus spécifique à AdaptaVie, en fait, c'est que l'activité physique ou la kinésiologie, qui est la science de l'activité physique, c'est une science qui est relativement jeune. Dans les cursus scolaires à l'université, peu importe l'université, le programme pour travailler avec les personnes en situation de handicap, ça varie d'une université à l'autre.
Oui.
Il y a des programmes où il n'y en a pas du tout. Il y a des programmes où c'est un cours à option de 45 heures. Donc, souvent, quand les gens nous arrivent à Québec chez Adaptavie, à Montréal chez Viomax ou ailleurs, ben là, ils connaissent pas du tout l'activité physique adaptée. Donc, de prescrire les activités que les gens doivent faire, ben ça prend une formation.
Ça prend un cursus commun, oui.
Ben oui, c'est ça. Donc, on a développé avec les chercheurs vraiment des guides et des outils pour aider les gens qui arrivent comme travailleurs, comme kinésiologues chez Adaptavie ou ailleurs, parce que notre idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à d'autres régions du Québec de bénéficier de l'activité physique adaptée en salle de conditionnement physique, d'avoir la meilleure formation possible pour les kinésiologues pour que... On veut pas que les gens se blessent, là, puis j'ai rien contre les centres de conditionnement physique réguliers.
Si c'est pas si l'accueil n'est pas adéquat, ça devient une zone dangereuse. Pour terminer, Mario, je m'en voudrais que nous passions sous silence la 8e édition de la randonnée de Jimmy Pelletier.
Absolument. Écoutez, Jimmy, dont on a lancé la biographie la semaine dernière, oui. Là, c'est un incroyable ambassadeur pour Adaptavie. Moi, en 2014, il me téléphone et il me dit après ma carrière paralympique, j'ai le goût de redonner une cause. J'ai choisi votre cause. Et depuis ce temps, on organise un paquet de défis. Mais la randonnée revient chaque année. Puis cette année, c'est la 8e édition. Ça nous permet cette année d'accueillir 120 cyclistes qui ont payé chacun 2 000 $.
Ça, c'est du 27 au 30 juin, si je ne me trompe pas.
Cette année, on part de Saint-Georges-de-Beauce, donc l'épicentre de l'éclipse aujourd'hui.
Oui.
on s'en va à Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski, puis on termine ça à Matane.
Ah, ben c'est une belle, belle randonnée, 500, ça.
Oui, 515 kilomètres en 4 jours. Et je ne dévoile pas le montant tout de suite, mais c'est quelques centaines de milliers de dollars mis à la cause. Puis nous, ce qui est important, François, c'est de on choisit quelques causes locales au début et à la fin, et puis on remet un montant d'argent à un organisme local qui vient en aide aux personnes en situation de handicap. Ça nous permet, vu qu'on a une capacité d'aller chercher beaucoup de sous, d'aider des groupes qui ont moins cette capacité-là.
Ben, comme Jimmy, vous redonnez, c'est bien.
On redonne.
Bravo. Ben, merci beaucoup, Mario. On souhaite que vous ayez de la belle température fin juin, puis... d'ici là, que vos projets de recherche dans le laboratoire vivant, là, ça se retrouve un petit peu partout.
Merci pour votre temps.
Merci.
À la prochaine, François.
Bye.
Au revoir.
Bye. We'll be right back. Oh, oh. Ça, mes amis, c'était du acid jazz. On est au milieu des années 70. Boogaloo Joe Jones qui interprétait Right On. Ça rajeunit personne, mais c'est de la musique qui a influencé beaucoup d'autres par la suite et puis qui est un jalon important de la culture musicale nord-américaine. Cela dit, bonjour Élisane.
Bonjour François.
Ah bien, après une dizaine de jours d'absence, vous revenez avec plein d'histoires dans les cartons.
Oui, j'ai fait une bonne récolte pour vous, François, parce que le monde n'a pas arrêté de tourner pendant que nous étions hors onde.
Ah, voilà.
Donc, on commence avec... on va parler de troubles neurologiques, donc selon une nouvelle étude majeure qui est publiée par The Lancet Neurologie. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde sont atteintes d'une maladie neurologique. L'Organisation mondiale de la santé a contribué à ces analyses. Donc, on parle vraiment d'une personne sur trois qui aurait des troubles neurologiques.
3 milliards, c'est énorme.
Première cause de maladie de handicap dans le monde, François.
Parce que les maladies neurologiques sont souvent faites source de handicap qui sont plutôt invisibles.
Oui, évidemment, on peut avoir aussi des handicaps visibles, mais c'est aussi toute la question d'être moins neurotypique ou d'être, par exemple, sur le trouble du spectre de l'autisme. Et également, évidemment, là, tout ce qui est par rapport à différents handicaps au niveau du comportement, par exemple. C'est effectivement le type d'handicap qui est souvent vu par les troubles neurologiques. Donc, plus de 80% des décès et des pertes de santé dû à des causes neurologiques souviennent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Oui, parce que ce qui arrive souvent, c'est que la couverture, si je peux dire, des services de santé, en fait, dans les pays à revenus élevés, si on compare ça en regardant de l'autre côté de l'équation, compte jusqu'à 70 fois plus de professionnels en neurologie par habitant ou par 100 000 habitants, que les pays en revenus faibles ou intermédiaires. Alors, 70 fois plus d'intervenants, ben ça fait évidemment un dépistage des interventions plus précoces et ça évite que ça dérape.
Il faut aussi parier que même dans les pays qui sont bien développés, comme ici au Canada, l'accès aux soins reste difficile pour certaines personnes.
Exact.
Particulièrement pour les personnes qui sont marginalisées, entre autres pour les personnes en situation de handicap, on en a parié dans les dernières semaines, François. Ça peut être plus difficile de trouver un endroit qui est adapté, de trouver des médecins qui comprennent notre condition et d'avoir accès à des soins de santé malgré le fait que notre pays est en bonne voie de développement et bien développé. Donc, c'est quand même un enjeu qui touche tout le monde, même au Canada.
Et l'étude constate qu'au cours des 30 dernières années, les troubles neurologiques ont augmenté de près de 18 % mais plus particulièrement la neuropathie diabétique et l'affection neurologique qui connaît la croissance la plus rapide, elle a pratiquement, en fait, triplé au cours des 20 dernières années. Pardon. Et, et ça, c'est relié à toutes sortes de problèmes d'alimentation et d'éducation, souvent à partir du jeune âge, sur comment s'alimenter, mais également sur l'offre alimentaire qui n'est pas la bonne.
On a un mode de vie, évidemment, qui n'est pas... compatibles pour aider ce type de maladie neurologique là. Et bien sûr, dans un monde où le sucre et la mauvaise alimentation est très, très prononcée, où c'est beaucoup plus difficile d'avoir des aliments sains pour la santé, ça coûte très cher.
Oui.
C'est sûr que pour les gens, comme je le disais, même dans les pays développés, ça devient extrêmement difficile de bien s'alimenter. Et donc, maladie-là et bien d'autres maladies neurologiques sont en augmentation à cause de notre mauvaise alimentation et plus largement d'un mode de vie qui n'est pas adéquat.
Voilà. L'OMS continue de faire parler d'elle. L'Organisation mondiale de la santé attire l'attention sur une autre problématique qu'on avait déjà soulevée ici.
Oui, on en a parlé quelques fois, François. Donc, on parle de la violence à l'égard des femmes en situation de handicap et des femmes âgées. Évidemment, donc, on a beaucoup plus de chances d'être maltraité, d'être victime de violence lorsqu'on est en situation de handicap ou lorsqu'on est âgé. Malheureusement, ce que l'OMS veut attirer attention sur le fait que 10% des données sur la violence faites aux femmes comprennent les femmes en situation de handicap.
Ça veut dire que les études qui veulent cerner, qui visent à cerner le problème, n'ont pas les bons échantillons.
Non, on parle très peu des femmes en situation de handicap. Elles ne font pas partie des échantillons, elles ne font pas partie des études. Ce qui fait qu'on arrive mal à cerner l'ampleur du problème parce que justement, les études ne parlent pas des femmes en situation de handicap. Donc, on sait que le problème prend de l'ampleur et que c'est extrêmement important. Mais évidemment, pour bien comprendre le problème et pour être capable de trouver des solutions adéquates, il faut que les femmes en situation de handicap fassent partie des études.
Exact. Parce que de différentes manières, l'estimation qui est faite, c'est que les femmes en situation de handicap sont trois fois plus vulnérables, trois fois plus exposées à des violences sexuelles ou parfois aussi à des violences psychologiques. On parle également de la situation des femmes âgées, où là, parfois, ça va être des questions d'abandon et de...
Ou d'abus financiers, par exemple.
D'abus financiers, oui, tout à fait. Ça, c'est assez prévalent.
Et on le voit, malheureusement, là, de la part des familles, c'est-à-dire que les familles font des abus financiers ou font des menaces à la personne dans l'optique de... Et la personne est dépendante de ces personnes-là. Donc, il y a un rapport de pouvoir qui est inégal et qui fait en sorte que les personnes âgées peuvent devenir extrêmement vulnérables. Mais encore une fois, l'OMS rappelle qu'on n'a pas assez de chiffres et qu'on ne tient pas assez compte du profil particulier de ces femmes-là dans les études.
Exact. En parlant de maltraitance et de situations de ce genre-là, en France, il y a eu un reportage, semble-t-il, le 24 mars dernier sur la chaîne M6, et ça l'a frappé les gens.
Oui, donc on parle d'un documentaire sur le handicap et les maltraitances, particulièrement donc dans les établissements de soins. Il y a beaucoup de maltraitance dans les établissements de soins en France. Donc, le 24 mars, on a eu un documentaire qui parle justement là, des problèmes qu'on peut retrouver en situation, lorsqu'on est en situation vulnérable dans des maisons de soins, entre autres de la part du personnel, malheureusement, qui est mal formé parfois et peut aller jusqu'à la malveillance envers ces personnes-là.
Voilà.
Les personnes sont évidemment débordées, ce qui n'excuse absolument rien, mais les personnes qui sont débordées, qui ont énormément de travail, parfois, ça dépasse ce qui serait acceptable.
Ça peut être malicieux, ça peut être de l'incompétence ou ça peut être, encore une fois, un sous-équipement ou une sous-dotation en personnel, mais il n'en demeure pas moins. Curieusement, le lendemain, le 25 mars, le lendemain de la diffusion du reportage, la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, Fadila Khattabi, a annoncé le lancement d'une stratégie nationale contre les maltraitances.
Oui, une stratégie nationale, donc de 2024 à 2027, pardon, pour être capable justement de réduire la maltraitance. Et on va travailler sur 5 axes, François. Donc, On va aller sur la lutte de respect des droits des plus vulnérables. On va aussi renforcer la vigilance, c'est-à-dire faire plus d'enquêtes au niveau des maisons de soins.
Tout à fait.
Pour être capable de mieux repérer les problèmes.
Oui, le suivi aussi est un de ces axes-là, parce qu'on avait vu il y a quelques semaines, il y avait eu un scandale où un préposé qui s'était vu condamné pour une maltraitance avait finalement conservé son emploi, là, puis ça l'avait fait mal paraître tout le système.
Oui, donc effectivement, là, je le disais, hein, il y a des problèmes au niveau des employés, on manque un peu de ressources et parfois, bon, il y a des choses qui passent entre les craques. Donc, c'est effectivement là, une des choses qu'on veut surveiller. Le quatrième axe porte sur les thématiques de culture de la bienveillance en formant des professionnels, donc en augmentant la formation. Et finalement aussi, on veut avoir une politique de contrôle des établissements accueillant les personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Un meilleur encadrement. Ben bravo. Après la pause, on va poursuivre dans un volet plus sportif.
Tour avec François Beauregard.
De retour, Élisane. Les Jeux paralympiques vont nous avoir tenus en haleine.
Oui, on n'en a presque pas parié, François. Je trouvais ça dommage. Hein?
Oui, il ne faut pas passer à côté.
Je vais quand même ramener quelques nouvelles par rapport aux Jeux olympiques, parce que ça sent bien, François, mine de rien. Donc, on parle des Jeux paralympiques et de la recherche sur les handicaps, parce que, bien sûr, François, le fait que les Jeux paralympiques aient lieu à Paris... Ça fait que y a plusieurs chercheurs là, qui ont des budgets pour faire avancer la recherche sur le handicap.
Parce que en fait, l'amélioration des équipements ou des formes d'entraînement pour les athlètes paralympiques, c'est un peu comme l'amélioration des automobiles suite à la technologie qui est développée, par exemple, dans un contexte de course.
Oui, donc en fait, ce qui sert aux paralympiens va aussi servir dans plusieurs cas, va aussi servir aux personnes dans leur vie quotidienne, aux personnes en situation de handicap. Par exemple, les prothèses où on améliore le confort des athlètes et où on est capable de rendre la prothèse plus confortable, plus ergonomique, va servir évidemment aux gens qui portent ces prothèses-là au quotidien, entre autres. Donc, c'est le genre de choses là, qu'on peut améliorer à la fois pour les athlètes, pour les rendre plus confortables lorsqu'ils sont sur les terrains de sport, mais qui vont aussi être utilisés, qui peuvent être utilisés donc pour les personnes qui portent des prothèses au quotidien, par exemple.
Exact. Ben, on parle entre autres aussi d'une amélioration par les chercheurs attachés, des chercheurs qui travaillent de près avec l'équipe de France de paralympisme et des sports comme par exemple le basket en fauteuil roulant, d'un dérapomètre qui améliore l'adhérence des pneus au sol, des fauteuils, des capteurs de puissance dans les roues pour mieux suivre l'athlète, une veste qui facilite la régulation de la température des athlètes tétraplégiques et encore un ergomètre qui mesure la puissance des bras. C'est différentes, différents gadgets, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est différentes inventions ou améliorations techniques qui ont été apportées vont éventuellement décanter jusqu'au
grand public. François, il faut dire que 86 % des épreuves au programme des Jeux de 2024 se font en fauteuil roulant.
D'accord.
Donc, au niveau de la recherche sur les fauteuils roulants, sur leur capacité à être plus mobile, sur leur capacité à être plus confortable, entre autres, il y a eu énormément de recherches par rapport à ça. Et bien sûr, je le disais également, là, pour tout ce qui est des prothèses pour les personnes qui ont des amputations, il y a beaucoup de gens qui ont des amputations qui ne veulent pas porter de prothèses parce que ce n'est pas confortable.
C'est désagréable.
C'est désagréable. Ça peut même mener à des blessures à cause du frottement, entre autres. Et il faut savoir qu'il y a eu quand même des recherches pour améliorer le matériau dans lequel sont faites les prothèses, dans l'optique de les rendre plus confortables et d'éviter les blessures. Donc, évidemment, si ça fonctionne pour les gens qui sont des sportifs aux Paralympiques, ça fonctionne pour monsieur, madame, tout le monde.
Pour le grand public, voilà.
Qui les utilisent au quotidien. Donc, c'est le genre de choses qu'on a vu apparaître dans les derniers mois et qui va continuer jusqu'aux Paralympiques et éventuellement, vous l'avez dit, François, se retrouver disponible
public
pour monsieur et madame tout le monde.
Oui, paralympique à grand public, hein, voilà.
Tout à fait, notre nouveau saga, François.
Oui, c'est bon ça. Ah, ben parce que Paris toujours aux prises avec des problèmes d'accessibilité qui sont mis en lumière par les Jeux paralympiques et les visiteurs qui auront besoin d'accessibilité, là, ça... on dirait qu'à chaque semaine, on trouve un autre truc qui ne marche pas tout à fait.
Ça aussi, on en a parié, François, vous vous rappelez, on a parié donc du transport adapté et des transports en commun qui n'étaient pas adéquats pour le nombre de personnes en situation de handicap qu'on allait accueillir à Paris cet été. Là, maintenant, on parle des ascenseurs. Donc, les opérateurs chargés de réparer les ascenseurs publics ont été sommés par le gouvernement de tenir les délais parce que... 36 % des ascenseurs publics de la capitale, donc à Paris, fonctionnent. Donc, seulement 36 %
Ça veut dire que, pour faire vite, là, il y a deux ascenseurs sur trois qui ne marchent pas. Et ça, ben là, si c'est un ascenseur, par exemple, pour donner accès au quai du métro ou des choses comme celle-là, ben on a beau dire qu'il y a un ascenseur pour la station, ben si l'ascenseur ne fonctionne pas, ça ne marche pas. À 4 mois des Jeux olympiques où on attend 350 000 personnes en situation d'handicap attendues à Paris, les élus interpellent les prestataires chargés de réparation. Les prestataires, là, c'est les compagnies d'ascenseurs.
Oui, les compagnies d'ascenseurs, donc on parle de Otis et de Schneider. On parle de 25 ascenseurs dans Paris et sur 25, il y en a 9 qui sont fonctionnels. Donc, neuf qui fonctionnent et donc il y reste ceux qui ne fonctionnent pas.
C'est ce qu'ils sont foutus. Ils donnaient la liste des ascenseurs et pourquoi ils ne fonctionnaient pas. Ça m'a frappé parce qu'il y en a un où, en fait, il y a une personne itinérante qui habite dans un ascenseur.
Oui.
Et c'est pas la faute de la personne itinérante.
Non.
Mais voilà, c'est plus... ça, c'est un autre type de problème sociétal.
Je la comprends, sauf qu'en même temps, bon, ouais, après, il faut falloir comme négocier l'ascenseur, puis c'est pas nécessairement la chose à faire.
Et ce qu'on entend, évidemment, de la part des compagnies Otis et Schindler, c'est que ben il y a des problèmes de stockage des pièces et puis des questions de moyens humains, en d'autres termes, pénurie de personnel. Mais ça, c'est des choses qu'on entend dans toutes les industries.
C'est tout à fait habituel, ce qui ne m'aidera pas à me rendre au métro à Paris avec mon fauteuil roulant quand même.
Et ce sont leurs propres ascenseurs dont il est question. Otis a été mis à l'amende pour 40 000 euros. C'est peut-être beaucoup et c'est peut-être aussi peu pour une compagnie de cette dimension-là et ça ne semble pas avoir activé les choses. Alors, voilà, une autre petite tâche au tableau de l'accessibilité à Paris d'ici les Paralympiques. Bien, on espère qu'il y aura peut-être des solutions qui seront apportées. Après la pause, on revient chez nous, on s'en va direct au Manitoba.
Thank you.
Ah, savoir bien jouer du piano, hein? Ah là 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 là. Un souhait. Mr. Lucky avec de Vince Guaraldi. On est à Saint-Boniface et il y a une collaboration interuniversitaire.
Oui, on valorise le handicap dans une revue scientifique en français. Et ça, c'est plutôt rare, François, parce que généralement, la plupart des revues scientifiques sont en anglais. La plupart des articles scientifiques qui sortent évidemment en anglais.
Oui.
Par contre, la professeure titulaire au département d'études françaises de langue et de littérature de l'Université de Saint-Boniface, Maria Fernanda Aronson, fait partie des co-rédacteurs de nouvelles publications Cahiers franco-latino-américains, qui fait des études sur le handicap, qui cherche à mettre à lumière la diversité des expériences de vie des personnes en situation de handicap.
Parce que c'est une collaboration avec d'autres universités, l'École des hautes études en santé publique en France, l'Université nationale de Quilmes en Argentine et d'Unipampa au Brésil, où là aussi des chercheuses se penchent sur la situation des personnes handicapées avec des approches qui sont différentes. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une culture à l'autre, la problématique du handicap n'est pas vue du même angle.
Non. En fait, ça se ressemble. On voit vraiment l'environnement qui n'est pas bien adapté pour les personnes en situation de handicap. Par contre, effectivement, au niveau culturel, la vision du handicap n'est pas la même. La façon d'inclure les personnes en situation de handicap ne seront pas les mêmes non plus. Et l'équipe travaille à la publication de la nouvelle revue pour fin 2024. Donc, on vise un numéro par année de 6 ou 7 articles et on essaie évidemment d'avoir un appui financier. Si on a un appui financier qui serait important, on pourrait aller jusqu'à 2 numéros par année.
Et voilà, donc ce serait une revue scientifique qui aura une approche plus francophone ou latine dans un sens large, avec davantage d'anthropologie, de sociologie, de philosophie, de littérature, par opposition à ce qu'on voit d'habitude dans les disability studies en anglais, où il est plutôt question de sciences politiques et de sociologie. Donc, c'est à suivre une publication à l'Université de Saint-Boniface. Il y avait un grand événement le 24 mars.
Oui, donc on parle d'une journée pour évaluer l'accessibilité des lieux de bout à l'autre du pays. On parle de Map Mission, qui est une application pour évaluer l'accessibilité des espaces. C'est Mayanne Jive qui est à la tête de cette entreprise. Cette application-là, donc, qui s'appelle Access Now, est une application où on peut regarder si différents espaces, entre autres des restaurants, par exemple, sont accessibles ou non.
Access Now, c'est A-C-C-E-S-S, Now, N-O-W. Alors, le 24 mars, Access Now, inviter les gens en situation de handicap à sortir.
Oui.
Puis à faire du repérage d'endroits près de chez eux.
Oui, à dire si ces endroits-là étaient accessibles ou pas et quels étaient les défis d'accessibilité, en fait, pour agrandir la base de l'application. Donc, évidemment, pour qu'une application comme celle-là fonctionne bien, il faut avoir quand même plusieurs établissements qui sont répertoriés, bien sûr. Et donc, on a demandé la collaboration des personnes en situation de handicap pour élargir la base d'établissements qui sont répertoriés.
Des événements, donc, de cette journée d'évaluation ont eu lieu le 24 mars à Calgary, Vancouver, Ottawa, Québec et Montréal. Alors, plus de gens collaborent à Access Now, plus la base de données s'enrichit et puis bien plus c'est utile, surtout quand on est en voyage.
Il faut dire aussi que la dame qui a lancé cette application est elle-même en situation de handicap, donc elle connaît bien les défis et elle voulait justement avoir une application qui réponde aux besoins des personnes en situation de handicap, d'où l'idée de lancer cette plateforme. Et effectivement, on le sait, François, le fait de partir en voyage peut être très anxiogène.
Oui.
Pour des gens qui ne savent pas sur quoi ils vont tomber.
Voilà, parce que des fois, c'est un peu comme le voyage au bout du monde dans le temps où la Terre était plate.
Hein? Oui.
Ça ressemble à ça. Oups, on est rendu trop loin. Et puis, il y a comme un grand vide. Alors, cette application qui a été lancée en 2015 répertorie aujourd'hui 1 million de sites à travers le monde. Alors là, ça, la banque est énorme. Alors, Access Now, si vous partez en voyage De cette portion-là, ben, il faut comprendre que une partie importante de la population vit en situation de handicap, donc l'accessibilité, là, c'est pas un luxe.
Non, l'accessibilité, évidemment, est un droit, mais c'est sûr que ce type d'application-là et les développements qui sont faits au niveau de la technologie peuvent quand même aider les gens à avoir des ressources qui sont fiables pour voyager et pour être capable de se déplacer de façon sécuritaire.
Oui, parce qu'il n'y a rien comme la vie de quelqu'un qui est en situation de handicap et qui l'a essayé. Parfois, c'est mieux que la vie
ingénieurs qui nous disent que c'est mon Dieu, combien adapté. Et là, tu arrives et c'est pas si adapté que ça, finalement. Le monsieur ingénieur ou la dame ingénieur, malgré toute sa bonté, n'a pas pensé à certaines choses.
Ou bien c'est adapté pour un type de difficulté,
oui,
mais pas tout.
On n'a pas pensé aux autres, effectivement.
Voilà. On parle de l'expérience des personnes en situation de handicap. Il y a des Madelinos qui vont faire l'objet d'un documentaire.
Oui, on revient donc aux questions de documentaire. Il y a une petite équipe de tournage qui a passé une dizaine de jours sur l'archipel, en fait, de réaliser un documentaire sur la réalité des personnes qui vivent avec un handicap. C'est la production de l'agence Ambassade, une compagnie de Rimouski, qui va être destinée à la chaîne spécialisée AmiTélé, qu'on connaît bien ici.
Oui.
Donc, on vise à faire entendre les voix des Canadiens et des Canadiennes en situation d'handicap.
C'était un projet au tout début qui ne devait être qu'un court-métrage. Et puis, ils ont passé... Marie-Ève Boisvert, qui est la co-réalisatrice du projet, finalement, au lieu de faire des courtes capsules, ils ont fait toute une production, toute une émission. Et ça va sortir sur AmiTélé un petit peu plus tard, au printemps. Voilà. Ah, là, c'est le temps de notre chronique ligne aérienne.
Oui, je savais, François, que vous alliez être content qu'on y retourne.
Eh, oui, oui.
C'est votre chronique préférée, on le sait bien. Donc, on a des visions opposées sur l'accessibilité du réseau aérien au Canada. Et alors, vous ne serez pas surpris, François, en fait, on a le président et chef de direction d'Air Canada et d'un côté et des groupes de défense de l'autre qui ne s'entendent pas sur l'ampleur du problème.
Est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va mal? Alors, Michael Rousseau, qui est le PDG d'Air Canada, estime que sur 1,3 million de passagers qui ont demandé une assistance spéciale l'année dernière, environ 2000 personnes ont déposé une plainte. Ça représente 0,15%. Donc, aux yeux de M. Rousseau...
ça va
c'est
bien.
C'est pas si pire. Mais là, il faut comprendre que c'est entre déposer une plainte et avoir une mauvaise expérience, il y a une marge.
Oui, il y a une grande marge parce que, vous le savez, François, là, souvent, on ne dépose pas plainte malgré le fait qu'on a reçu un accueil qui est passable ou une expérience qui est passable parce essaie de sauver de l'énergie.
Oui.
Ceux qui déposent plainte, c'est souvent ceux qui ont eu des expériences plus traumatisantes ou vraiment très catastrophiques, effectivement. Et il faut dire aussi que, on essaie de déjouer par des statistiques. Donc, effectivement, 0,15, c'est pas beaucoup. Par contre, pour les gens... à qui c'est arrivé de perdre un fauteuil roulant, par exemple, ou d'avoir des expériences extrêmement difficiles, on n'ira pas conforter avec
en
une
disant,
statistique.
C'est juste arrivé 2000 fois l'an dernier, c'est quand même pas si mal.
Ouais.
De dire ça, et on sait que ce 2000 cache probablement
en cache
des milliers
oui, voilà.
d'autres qui ont préféré... ne pas pousser l'affaire plus loin parce que tout ce qu'on veut, c'est arriver à destination.
Puis en même temps, ça nous arrive tellement souvent qu'à un moment donné, on banalise.
C'est terrible
ça.
À dire. Oui. On finit par s'habituer d'être mal servi.
Moi, personnellement, je banalise un peu ça. Je lisais la chronique, François, l'article, et je me disais, j'ai été mal servi tout le temps, ou presque,
voilà.
Et j'ai jamais porté plainte, parce que pour moi, c'est normal.
Oui, c'est ça. Et c'est là qui est terrible, c'est que quand les personnes qui sont bafouées s'habituent à la situation, à l'état de fait, ça règle pas le problème. Les défenseurs des droits des personnes en situation de handicap réclament qu'une ligne d'assistance téléphonée accessible pour les voyageurs vivant avec un handicap soit mise en place dans chaque compagnie aérienne. Oui, parce que sinon, vous allez vous taper au moins 90 minutes de musique d'attente. Là. Que des acheteurs secrets, on appelle ça des clients fantômes, se fassent passer pour des passagers soient déployés pour qu'on puisse à ce moment-là répertorier véritablement, recenser des cas concrets sur la pratique et de service à la clientèle et que de cette manière-là, ben, on soit capable plutôt de, au lieu d'avoir des petits reportages anecdotiques et spectaculaires, mais qu'on puisse dire voici combien de fois telle ou telle chose est survenue.
Il faut dire que M. Rousseau, là, qui est PDG de l'Arcada, de son côté, favorise la formation, là, qui dit qu'il va avoir de la formation pour les agents de bord, oui. Que la formation va être améliorée. Mais évidemment, là, c'est trop peu pour les gens qui sont en défense des droits des personnes en situation de handicap. La formation, c'est bien, bien sûr, mais ça ne réglera pas tout le problème, étant donné tous les besoins au niveau des ressources qui sont inadéquates, au niveau également de la mentalité qui est inadéquate. Et donc, on veut aller beaucoup moins que ça. On veut que le Canada ait des règles beaucoup plus strictes, qui soient appliquées beaucoup plus rigoureusement pour garantir la conformité et la responsabilité des lignes aériennes, justement dans les cas où ça se passe mal.
Tout à fait. Et maintenant, on est rendu à un problème de relations publiques pour les lignes aériennes, au point où il ne faudra pas que seulement elles fassent ce qui doit être fait. Mais maintenant, pour que l'opinion change, il va falloir qu'elle aille beaucoup plus loin. Et ça, je ne pense pas qu'ils soient prêts à faire ce pas. Le gouvernement canadien va tenir un sommet sur l'accessibilité dans le transport aérien, mais déjà, il y a un peu de scepticisme.
Oui, bien, on va avoir un sommet, donc le 9 mai, mais il y a personnes qui défendent les droits des personnes en situation de handicap parlent de vraiment, et je cite, un sommet, c'est une séance de photos. Donc, en fait, c'est fait pour faire bonne presse, pour aller sourire devant les caméras, pour montrer exact. Qu'on fait quelque chose. Mais dans les faits, est-ce que ça change vraiment la pratique sur le terrain? On pense que non. On pense que ça va être vraiment mettre de la poudre aux yeux. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Évidemment, ça va coûter cher. Et
on va pouvoir aller à Ottawa sur le bras, comme on dit,
oui.
Parler à une table qui va remplir la salle avec, comme vous dites, caméra et tout, et communiqué de presse.
Mais ce qu'on veut, c'est d'avoir des changements qui sont efficaces et qui sont visibles. Et peut-être qu'on n'en aura pas, François, donc on va voir.
Peut-être que ce ne sera pas le 10, tout d'un coup, le 10 mai.
Non,
tout va bien.
Je doute que ce soit le 10 mai, mais on s'en reparle, François, le 10 mai, vous et moi, on s'appelle. Par contre, ça me surprendrait que magiquement, le 10 mai, tout se passe bien.
Tout se passe bien, parce que souvent, c'est cette bonne volonté se traduit par des politiques, par des intentions. Mais c'est au moment de la mise en place et
que ça ne fonctionne pas.
Voilà, et de voir à ce que ce soit vérifié, contrôlé et qu'il y ait des pénalités suffisantes pour que tous les acteurs fassent leur bout.
Parce qu'on s'entend, là, les compagnies aériennes ont des politiques en place en ce moment. Ils en ont toutes. et pourtant, ça ne nous empêche pas de vivre des choses absolument catastrophiques parce que les politiques ne sont pas mises en place de façon adéquate lorsqu'on en a besoin.
Exactement. C'est souvent dans l'application où les choses dérapent. En parlant de dérapage, on va parler... on est rendu sur la route. La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, annonce la mise en place d'un comité consultatif sur le transport des personnes en situation de handicap, le transport adapté.
J'aime beaucoup vos jeux de mots, François, effectivement. Donc, si on peut parler de dérapage, le transport adapté, il y a eu quelques dérapages dans les dernières semaines. On en a parié beaucoup. Et effectivement, là, on vient d'annoncer qu'il va y avoir quand même beaucoup d'argent qui vont être mis sur le transport adapté. On parle d'une aide de 780 millions de dollars sur 5 ans qui vient d'être annoncée.
Exactement. Le groupe, peut-être évidemment un groupe, c'est peut-être mieux qu'un sommet d'une seule journée. On peut penser que déjà, il y aura peut-être un peu plus de profondeur au discours. Ce groupe sera présidé par le député de Drummond-Boisfranc et adjoint gouvernemental de la ministre, M. Sébastien Schneeberger. Les principaux thèmes qui seront abordés toucheront entre autres le financement, le rôle des municipalités et des MRC, l'accessibilité des modes de déplacement, la main-d'œuvre et la formation. Le comité aura comme mandat de discuter des enjeux reliés au transport adapté, l'encadrement financier, La première rencontre s'est tenue aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui, on parle d'il y a quelques jours, et sera suivie de 4 rencontres thématiques. Un rapport sera produit à la fin de l'année 2024. Et ici, à l'antenne Sans détour, nous essayons déjà de rejoindre tous ces gens-là pour pouvoir les inviter à notre micro.
On parle donc d'une quinzaine de regroupements qui vont être présents sur ce comité-là, entre autres les associations de taxis, de transport collectif, des organismes pour personnes handicapées, des municipalités, fédérations de transporteurs par autobus, entre autres. Donc, on va y rejoindre beaucoup de gens, mais effectivement, encore une fois, il faut que ça se traduise par des choses qui sont concrètes et non seulement par d'autres politiques qu'on va écrire, mais qu'on ne mettra pas en place.
Oui, parce que le rapport soit produit à la fin d'année 2024 suite à ces consultations, c'est une excellente chose. Qu'une politique soit émise, c'est formidable, mais c'est après ça souvent que ça dérape, encore une fois.
Oui.
La fonction publique, elle, s'était donnée pour mission de se diversifier. On parle de la fonction publique fédérale. On peut dire mission accomplie, mais pas tout à fait.
Oui, bien, mission accomplie sur plusieurs aspects. Par contre, les personnes en situation de handicap sont toujours sous-représentées. Donc, pour ce qui nous intéresse particulièrement, François, la mission n'est pas accomplie. Par contre, sur différents autres groupes, ça s'est amélioré, mais les personnes en situation de handicap représentent 9,2% de la population active et seulement 6,9% des fonctionnaires.
Alors que les femmes, les personnes racisées, les personnes autochtones ont vu leur participation à la fonction publique en fait dépasser leur proportion de la population nationale. Alors, de ce côté-là, c'est très bien.
C'est une très bonne chose, entre autres, pour les personnes autochtones qui étaient largement sous-représentées.
Exactement.
Qui sont maintenant sur-représentées parce qu'il y a eu quand même des postes d'ouvert pour ces personnes-là particulièrement. Donc ça, c'est très bien. Par contre, pour les personnes en situation de handicap, on a encore du travail à faire. De près de 3 % et donc c'est énorme.
3 % sur 9, ça fait beaucoup, ça fait le tiers. Juste pour terminer, on va sauter tout de suite à vous rappeler que l'INCA offre des groupes de soutien psychosociaux. Ces groupes de soutien vont se réunir pour différents segments de la population, que ce soit les adultes, les personnes de 65 ans et plus. Ça va être en présentiel, ça va être en virtuel, ça va être par téléphone. Tout ça va commencer lundi le 13 mai sous différentes formes. Et si vous voulez vous joindre à ces groupes-là, vous pouvez communiquer avec l'INCA. Voilà, ben c'est un peu tout pour tout de suite. Merci, Lisanne.
Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine.
Ah, peut-être. Claire Guérin à la recherche et Mathieu Tessier derrière la vitre qui corrige toutes les petites les petits grichements parfois que l'on entend. Hein, voilà, on y est arrivé. Bravo. Merci. À la prochaine, tout le monde.